Cette semaine, nous recevons deux blogueurs, Stan Jourdan. Salut Stan.
Bonjour.
Et Gérard Fouché. Ça va Gérard ?
Stéphane, très bien, merci.
Alors d'abord, on va présenter un peu le thème de cette émission. Mais on va parler de votre cœur d'action sur Internet et sur vos blogs et vos actions sur Internet, qui est le revenu de base. Alors peut-être on va commencer par Stan. Donc tu te positionnes sur le revenu de base.
Oui, absolument. Je pense que c'est une des revendications majeur à avoir aujourd'hui en 2012 et puis pour les générations suivantes. Enfin voilà, c'est effectivement ma priorité aujourd'hui, c'est de faire avancer ce sujet-là dans la société.
D'accord. Alors comment tu fais ça sur Internet ? Enfin comment tu es actif là-dessus ?
Alors donc moi j'ai un blog qui s'appelle Tête de Quenelle. C'est un peu, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais c'est un peu de là que beaucoup de choses ont commencé pour moi. Et puis j'ai aussi des activités un peu journaliste en indépendant. Et puis en tant qu'activiste aussi, avec un mouvement en France qu'on est en train d'essayer de former autour du revenu de base.
D'accord, je crois qu'il y a un site en préparation, c'est ça ?
Voilà, donc je suis en train de travailler, je suis pas tout seul, mais on est en train de travailler à créer un site qui va s'appeler revenudebase.info et qui va essayer de regrouper un peu tous les partisans, à la fois dans leur diversité, mais aussi dans leur... en essayant de rassembler les gens autour du revenu de base. Le but ce sera aussi de porter une initiative citoyenne européenne.
Alors ça, on y reviendra peut-être.
On y reviendra tout à l'heure.
Tout à l'heure, ouais, d'accord. Et alors, je crois aussi que tu as pris contact avec une très ancienne association en France qui soutient cette idée depuis longtemps, qui est l'association pour l'instauration de revenus d'existence,
voilà.
L'AIR, de l'UE.
L'AIR, oui, effectivement, je travaille avec eux aujourd'hui à plusieurs niveaux, notamment pour cette initiative citoyenne, et puis aussi pour le site qu'on va lancer, revenudebase.info. Qui a été cofinancé par cette association.
D'accord. Alors maintenant, Gérard. Alors, Gérard, on va dire que tu as un peu plus d'expérience que Stan, qui fait jeune quand même par rapport à ton expérience, puisque tu as été entrepreneur, éditeur, tu as fait un tour du monde en bateau, tu as fait énormément de choses. Donc, tu as un gros background entrepreneurial aussi et baroudeur aussi, un peu, j'ai envie de dire. Hein. Et comment toi, alors, voilà, qui est un peu comme ça, iconoclaste, tu es arrivé à cette prise de conscience de ce revenu de base, comment tu agis là-dessus ? Pourquoi tu t'es positionné ? Enfin, comment tu te positionnes d'abord, avant d'avoir pourquoi, mais comment tu te positionnes là-dessus ?
Ben la démarche personnelle que j'ai depuis toujours, c'est une démarche de liberté et d'indépendance. Et donc, voilà, je ne me souviens plus exactement comment ni pourquoi, mais un jour sur Internet, bon, je connais bien Internet depuis les débuts d'Internet, depuis 95, 96, enfin les débuts du web plutôt, pas d'Internet. Et donc, je ne sais plus pourquoi, il y a 3 ans à peu près, je suis tombé sur Internet sur un documentaire qui est maintenant très connu, réalisé par Paul Grignon, qui s'appelait L'argent dette, qui s'appelle toujours L'argent dette, et qui décrit le système monétaire d'une manière un peu simple, mais que tout le monde peut comprendre. Et donc, les questions que je m'étais toujours posées, plutôt inconsciemment, ça, c'était un petit peu derrière toutes mes réflexions depuis toujours. Les questions que je m'étais toujours posées inconsciemment sur la monnaie, la création de la monnaie, d'où ça venait, qu'est-ce que c'était que la monnaie,
oui.
Ce documentaire m'a d'une part passionné et d'autre part ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur la réalité du rôle de la monnaie dans la société actuelle et de sa création.
Alors on va revenir en détail sur cette démarche que tu as signalée. Et tu es donc arrivé à cette compréhension du revenu de base comme étant une évolution nécessaire du système économique et monétaire. Et comment tu es présent sur cette notion-là sur Internet?
Bah, c'est le fruit d'après d'une
Non, mais
évolution.
comment tu te manifestes en
Oui,
fait?
tout à fait. Donc après cette première découverte, il y a eu tout un parcours qui a fait que je me suis intéressé à la monnaie, que j'ai créé pour d'autres choses aussi, pour parler de liberté, j'ai créé un petit blog vidéo sur Internet qui s'appelle Le Mini Show.
Le mini show de Gérard
Le
Fouché.
mini show de Gérard Fouché, dont la ligne, c'est vous faire rire et réfléchir. Voilà, parce que j'aime bien distraire les gens, les faire rire, mais en même temps les éveiller à des sujets qui sont parfois un petit peu complexes.
Ouais.
Donc voilà, donc la difficulté, c'est de comprendre des sujets complexes et de les expliquer d'une manière qui soit un petit peu agréable à écouter. Donc c'est ce que je fais sur Internet avec le mini-show, c'est ce que je fais également sur Internet avec un blog aussi que j'ai créé, où je parle un peu d'économie, de monnaie, etc. Mais je suis un citoyen lambda, c'est-à-dire que je m'intéresse à tous ces sujets-là, pas pour les avoir étudiés à l'école ni à l'université. Et le fait que je n'y connaisse rien du tout me permet justement, je pense, de comparer et de contrôler la validité des différentes informations qui sont maintenant disponibles pour n'importe qui sur Internet.
Donc on dira peut-être que vis-à-vis de Stan, qui a plus une démarche, je dirais, d'étudiant d'école de commerce, hein, parce que c'est un peu ce que tu as
Oui,
fait.
c'est là d'où je viens, effectivement
Voilà,
aussi.
donc il y a quand même une petite démarche un peu structurée, je dirais théorique, et toi, tu as plus une démarche, je dirais, de vulgarisation.
Au niveau de l'action que j'ai sur Internet, oui. Au niveau personnel, c'est une démarche d'homme qui essaye d'être libre et indépendant et qui se trouve face à des injustices, à des prises de contrôle. Et j'étudie ça, j'essaye de décortiquer pour voir comment ça fonctionne et quelles solutions on peut éventuellement, quelles alternatives on peut éventuellement y apporter.
D'accord. Alors, vous êtes aussi tous les deux, donc on reprend sur Stan pour finir sur cette présence sur Internet, sur le sujet des revenus de base. Vous êtes aussi tous les deux, bien sûr, présents sur les réseaux sociaux. Hein. Oui.
Oui,
Alors, je crois que Stan, d'ailleurs, tu as
ouais.
plusieurs comptes Twitter.
Je gère le compte Twitter
Ah
du
bon?
site revenu de base pour info également.
Ouais, qui s'appelle
Revenu de
comment?
base,
C'est.
donc arrobase revenu de base fr.
FR. Hein.
Voilà.
Parce qu'il y en a un autre, revenu de base, mais c'est pas le tien.
Voilà, c'est celui
Mais c'est
d'un
quand
ami
même un
blogueur.
collègue.
Oui, c'est un ami.
Revenu de base FR. Sinon, le tien, c'est Stan Jourdan.
Voilà.
At Stan
Ouais.
Jourdan. Tu es aussi présent sur Facebook.
Oui, Facebook, que j'utilise plutôt. J'essaie de garder un peu familial, on va dire,
D'accord.
rester entre amis, mais bon,
Moins.
qui est quand même assez ouvert. Et puis sinon, oui, Google Plus aussi,
Alors, vous êtes
tout le.
conscient d'ailleurs que ces réseaux sont pas des réseaux sociaux
Oui, je
ouverts.
sais.
Hein. D'accord, ils sont pas libres. D'accord. Dans Monnaie Libre, on fait attention au logiciel aussi, à utiliser avec modération Twitter et Facebook pour ces raisons-là. Gérard, toi aussi, pareil?
Oui, moi j'ai des comptes personnels à mon nom, Gérard Fouché, sur la plupart des réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, puisque c'est un de ceux sur lesquels je suis présent depuis le plus longtemps. Donc j'ai un public, un suivi sur lequel je diffuse mes vidéos blogs sur Facebook en particulier. Moi, Facebook m'intéresse, bon, bien que ce soit un site privateur, Facebook m'intéresse dans la mesure où on peut trouver un public qui n'est pas un public de spécialistes, qui est un public un petit peu que je qualifierais des Français moyens, des gens voilà, qui ne s'intéressent pas forcément à l'économie, pas forcément à la monnaie. Et donc je me situe un peu à la frontière entre les spécialistes, un petit peu comme Stan ou comme les économistes que nous rencontrons quand nous faisons des actions précises, donc à la frontière entre les spécialistes et les non-spécialistes. Voilà, j'essaye un petit peu de faire de la traduction. Donc sur Facebook. Sur Google Plus, oui, bon, qui est un petit peu moins pour l'instant développé que Facebook. Sur Twitter, alors Twitter, c'est intéressant parce que là, je tweete pas mal. Je crois que bon, le public de chacun des réseaux sociaux est différent. Sur Twitter en particulier, on trouve des journalistes, des spécialistes, des chercheurs. Là, la France moyenne n'est pas très présente là-dessus, donc c'est intéressant aussi. Et puis, bah, j'aimerais bien être plus sur Diaspora, le réseau libre, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Donc, de temps en temps, je mets des billets, mais ils sont pas très lus parce qu'il n'y a personne. Mais bon.
Oui, donc pour l'instant, Diaspora, je crois qu'il
Donc
est encore en
voilà, en gros.
développement, mais il y a aussi
Ouais.
Movim qui est
Movim,
un.
j'ai pas essayé encore.
Alors, Movim est
Ouais.
encore en
Ouais. C'est
développement,
un
mais
projet français, ça.
c'est un projet français, mais
Ouais.
qui a l'air plus respectueux d'un certain nombre de standards libres aussi. Ils ont choisi XMPP notamment, enfin, donc il y a peut-être plus d'intérêt.
On va
C'est plus
regarder.
long à démarrer, mais peut-être que c'est peut-être toujours. Avec le lièvre et la tortue, on ne sait jamais trop qui va arriver en premier. Hein.
Tout à
Ça
fait.
dépend si le lièvre fait une pause ou pas.
Non, non, tout à
Alors
fait.
voilà, donc on a présenté votre activité, votre présence hein, sur Internet et votre action concernant le revenu de base. Peut-être on a oublié quelque chose, Stan. Tu as lancé un groupe, Revenu de base Paris aussi, hein, qui fait des rendez-vous à Paris.
Oui, alors ça vient de l'idée que en fait, ça existe déjà à Toulouse et Montauban, donc des groupes qui se réunissent très régulièrement, notamment avec Carole que tu as déjà interviewé. Et donc je me suis dit, bah, c'est dommage que ça n'existe pas à Paris, alors que ça existe dans d'autres villes, et Paris est quand même censé être la ville la plus grande de France, donc je trouve ça paradoxal. Donc je me suis dit, bah, je vais lancer l'idée. Et puis suite à plusieurs réunions déjà, on en est à la quatrième, je crois, cinquième bientôt. Et donc la règle, c'est que c'est tous les deuxièmes mercredis du mois. Et donc faut chercher sur Facebook, nous retrouver, on a un groupe qui s'appelle Communauté du revenu de base Paris.
Paris.
Voilà.
D'accord, donc ça c'était pour bah, ceux qui veulent en savoir plus au jour le jour sur le sujet du revenu de base et qui le connaissent déjà, bien sûr, et pour vous suivre sur Internet, être au courant de vos activités, puis des informations que vous distillez sur le sujet, qu'elles soient d'inspiration personnelle ou extérieure. Bon, alors, et maintenant on va arriver peut-être un peu plus au cœur du sujet, là ça va être un peu plus technique peut-être, c'est comment finalement vous êtes arrivé à cette prise de conscience du revenu de base comme solution aux crises monétaires, comme peut-être aussi comme solution politique, hein, sociale, économique et pas que monétaire. Comment vous êtes arrivé à ça en fonction de votre parcours qui est forcément différent l'un et l'autre. Alors voilà, donc vas-y peut-être j'ai pour changer un peu Gérard.
Ben, c'est un parcours à la fois personnel et social. Bon, quand j'ai découvert donc ce documentaire-là, je me suis aperçu que la monnaie, c'était d'abord et avant tout un moyen d'échange sur lequel un certain nombre de gens peuvent se mettre d'accord pour échanger leurs biens et leurs services. Bon, ça, c'était pour moi, c'est devenu la définition principale d'une monnaie. Et d'autre part, je me suis aperçu aussi que c'était, quand on en contrôlait la création et la distribution, un outil de pouvoir exorbitant et colossal. Et donc, en étudiant les principes actuels qui gouvernent la création et la distribution de la monnaie, je me suis aperçu que un certain nombre de puissances, un certain nombre de services gouvernaient ces deux activités fondamentales, non seulement pour la monnaie, mais aussi pour l'économie de la société et également pour le bien-être humain et social de la société. Et donc j'ai commencé à étudier les conséquences d'un contrôle pyramidal de création et de distribution monétaire. Et là, je me suis aperçu que, à l'évidence, il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient mal, c'est-à-dire qui entraînaient des conséquences désastreuses et prédatrices pour une certaine partie de la population, et des conséquences merveilleuses et enrichissantes pour une autre partie, merveilleuse et enrichissante pour une autre partie de la population.
Ceux qui contrôlent l'émission monétaire?
Voilà. Et donc, comme je suis quelqu'un qui a au fond de lui, depuis la petite enfance, un sentiment très puissant de justice et un détecteur très puissant d'injustice, je me suis trouvé face à quelque chose dont il m'a semblé très important de parler.
D'accord, donc tu as donc ce film déjà t'a permis de comprendre le mécanisme de la.
Voilà, les
Mais ça, le
bases.
comprendre le mécanisme n'amène pas directement une base.
Pas du
Parce
tout.
que d'autres vont dire oui, mais c'est parce que c'est les banques qui créent l'émission monétaire. D'autres vont dire si c'est l'État, ça serait peut-être mieux et ça permettrait de contrebalancer le pouvoir des banques. Donc pourquoi le revenu de base? Pourquoi cette solution-là?
Bah, c'est le fruit d'une évolution. Quand on est face à un problème et qu'on a bien analysé le problème, on commence à comprendre quelles sont les sources du problème et donc on commence à comprendre quelles sont les solutions, les alternatives éventuelles qu'on pourrait avoir pour qu'un problème d'injustice devienne apporte moins d'injustice à une société ou plus de justice. À partir de là, on se pose, on avance dans une réflexion. Si on part du principe que la création monétaire ne doit pas reposer entre les mains de quelques-uns et la distribution monétaire ne doit pas dépendre du bon vouloir de quelques-uns, on se dit, alors si ça ne doit pas dépendre du bon vouloir de quelques-uns, ça doit dépendre du bon vouloir de tous. Bon, dans une démarche politique, on se dit, quel est le représentant a priori du bon vouloir de tous, qu'on peut nommer, si on préfère, le bien commun. Et on tombe sur l'État. Donc là, c'est sûr que dans le fil de réflexion, l'État, c'est la première entité à qui on va avoir envie de confier un contrôle qui concerne tous, puisque, a priori, l'État représente l'ensemble de la société. Et puis, quand on pousse la réflexion un petit peu plus loin, on se dit que l'État lui-même, on se pose la question, est-ce que l'État lui-même est bien placé pour diriger la création monétaire, la distribution de la monnaie et, par conséquent, l'ensemble de l'économie et l'ensemble des secteurs qui vont être favorisés ou défavorisés. Est-ce que c'est bien de confier cette responsabilité-là à un petit nombre de gens qui sont certes élus par un certain nombre d'électeurs, mais on s'aperçoit, parce que ça touche aussi à la démocratie, tout ça, bien entendu, on s'aperçoit que la démocratie représentative, d'autre part, ne représente pas véritablement la volonté d'une vraie majorité. Donc, on se pose la question, est-ce que l'État est vraiment bien placé pour gérer ces choses-là? Et on se dit, bah, après tout, pourquoi est-ce que la monnaie, au lieu d'être distribuée par un centre émetteur, ne serait pas carrément distribuée? Quelle serait la méthode idéale pour la distribution de la monnaie? Et si on réfléchit un peu, on se dit, pourquoi la monnaie serait-elle pas finalement distribuée à parts égales à chaque citoyen?
Oui, mais alors dans ce cas-là, on
Et
va te
donc,
rétorquer, oui, mais pour pouvoir émettre de la monnaie, il faut avoir quelque chose en gage. C'est ce que disent les libertariens. Ils vont te dire, si tout le monde émet de la monnaie, le problème c'est qu'il n'a rien en gage pour en contrepartie de la monnaie émise.
tout à fait. Tout à fait. C'est l'erreur qu'on commet depuis très longtemps de croire que le gage d'une monnaie, c'est une valeur. C'est une, je sais pas, c'est l'or, c'est des bouts de bois, c'est du métal, etc. Alors que la seule vraie valeur que produisent les membres d'une société, si on y réfléchit, c'est pas des cailloux, c'est pas de l'or, c'est leur propre production, c'est leur propre valeur physique. Chaque citoyen est propriétaire de son corps, chaque citoyen utilise ses bras et son cerveau pour ses propres productions, pour ses propres créations, qu'il soit un ouvrier dans une usine ou un PDG dans une entreprise, chacun essaye, selon ses moyens, selon ses capacités, de produire quelque chose. C'est ça la richesse. La véritable richesse, c'est ça. C'est la richesse d'une société, c'est ça.
Mais
C'est
alors comment
la production des
on
individus.
pourra te
Et donc,
rétorquer comment valoriser ça alors parce que un bout d'or on sait à peu près ce que c'est, une production de citoyens, par définition on ne sait pas ce que c'est.
la valeur, elle est déterminée après. Elle est déterminée selon l'offre et la demande. Si un citoyen a besoin de votre production, il va lui accorder de la valeur. Un autre n'en voudra pas. Pour lui, votre production aura zéro valeur. Et c'est justement le rôle de la monnaie d'équilibrer l'ensemble de ces transactions.
Donc ça veut dire que l'émission, même gagée par revenu de base, c'est pas n'importe quelle émission. C'est pas un revenu de base qui peut être de 10 milliards d'euros par personne, quoi.
On pourrait dire, pour concilier l'objection que tu viens de présenter et l'espoir d'un revenu de base, on pourrait dire que le revenu de base ne représente que la potentialité de production d'un individu. Et que donc, à ce titre, elle ne doit représenter que, elle ne doit être calculée que sur la production effective déjà existante, éventuellement. Mais bon, ça, ce sont des données. Ce ne sont pas des données sur lesquelles on doit décider, ce sont des données sur lesquelles on doit réfléchir, simplement. Les décisions, si décisions il y a, elles doivent être prises par l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui doivent débattre et qui doivent se mettre d'accord sur, en quelque sorte, une constitution de la monnaie.
D'accord. Et pour finir, alors c'est toute cette réflexion que tu nous as merveilleusement résumée, tu l'as menée tout seul ou est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as vu que d'autres personnes... Enfin, comment tu es arrivé à ce résultat? Tu as lu quels auteurs? Enfin, comment tu es arrivé à ça?
Je passe entre 10 et 12 heures par jour à rechercher des informations sur Internet, dans les bibliothèques, je lis. Donc bon, bah, comme j'avais au départ quasiment pas de formation économique à part un bac, je me suis intéressé à la plupart des économistes, de Keynes à Rothbard, en passant par von Mises. Et donc, voilà, j'ai fait ma propre culture et je reconnais que c'est un temps considérable, que c'est un travail considérable. Mais bon, comme mon espoir, c'est de faire passer, de communiquer ces idées auprès d'un public le plus large possible, de partager ces recherches avec un public le plus large possible, moi je fais les recherches, je traduis, je condense, j'analyse et je synthétise à la fois, et j'essaye de communiquer le résultat de tout ça.
D'accord, donc avec donc une vraie recherche économique,
Ah ben
lecture de
forcément.
plusieurs grands économistes, tu nous as cité quelques-uns.
Forcément.
Et donc une vraie démarche de recherche, pas que une réflexion comme ça, disons, couchée dans l'herbe avec une paille dans la bouche.
Non, non, bien
Hein.
sûr, non, pas du tout, bien
Alors on
sûr.
va arriver à Stan, alors qu'a une démarche, je dirais presque un peu plus, je dirais classique, universitaire, mais une vraie démarche de journaliste, avec une recherche des théories actuelles développées, avec une vraie, un vrai référencement aussi, des sources. Et tu as même fait des articles alors, qui analysaient profondément les concepts d'inflation, mais aussi les comparaisons des théories monétaires et tout. Donc, tu as fait une démarche exhaustive, un peu à la manière de Gérard, mais peut-être plus d'un point de vue académique au départ que disons, expérimental selon Gérard.
Alors, je ne sais pas si c'est très académique vu que j'ai jamais été fouillé dans les théories monétaires. Je suis plutôt dans le style pragmatique.
Oui.
C'est-à-dire que. Mais bon, bref. Pour refaire l'histoire, moi en fait, je pense que je suis obligé de remonter un peu au moment où la crise des subprimes a explosé. À ce moment-là, j'étais en école de commerce, donc j'étais censé bien sûr m'intéresser beaucoup à ça, à la crise, et on était censé un peu nous expliquer tout ça à l'école. Je vous rassure, c'était pas le cas. Non, mais à cette époque, j'étais vaguement curieux par rapport à ce truc-là, et puis bon, après, quand on est étudiant, on aime bien faire la fête et tout, donc finalement, je suis un peu passé à travers. Mais quand même, j'avais cette sensation. Après, j'ai commencé à passer beaucoup de temps sur Internet et je voyais bien qu'il y avait un truc qui marchait plus. Mais à la différence de Gérard, j'ai pas tout de suite vu le truc de la monnaie, quoi. Ça, c'est, je l'ai vu après. Et justement, au fil de mes lectures, j'ai commencé à. J'étais ouvert parce que je comprenais que ça marchait plus. Et puis un jour, je suis tombé donc sur l'idée du revenu de base et même plus précisément du revenu universel, du dividende universel, pardon. Et donc là, ça m'a interloqué parce que. Là, j'ai une solution. Et en fait, jusqu'à présent, j'avais vu que des problèmes, mais j'avais jamais vu de solution. Et le jour où enfin j'ai eu une petite lumière au bout du tunnel, là, j'ai commencé vraiment à me remettre à m'intéresser à l'économie plus précisément. Et donc là, c'est à peu près au moment où la Grèce commençait à avoir de sérieux problèmes aussi. Donc là, ça a réanimé en moi toute une réflexion sur l'économie. Et puis j'ai commencé à écrire sur l'idée, sur le revenu de base, avec beaucoup d'articles. Et effectivement, là, j'ai remonté le fil, j'ai remonté les théories, et j'ai comparé avec le débat qu'il y a dans la blogosphère, effectivement, la blogosphère française, mais aussi anglophone, qui, à mon goût, est beaucoup plus en avance là-dessus, je trouve. Parce qu'effectivement, on trouve d'autres théories monétaires qui concurrencent le revenu de base. D'une certaine manière. Et voilà où comment j'en suis arrivé là. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéressait au tout début, ce qui m'intéressait sur le revenu de base, c'était vraiment pas du tout l'approche monétaire, c'était plus l'approche sociale. C'est-à-dire que depuis longtemps, j'avais le sentiment que ce système social, surtout en France, en fait, ne crée que des problèmes, il ne résout rien, et puis surtout, il crée une espèce de défiance, parce qu'en fait, on sait plus du tout. En fonction du statut, en fonction de l'âge qu'on a, on sait plus qui gagne quoi, et en fait, on a tous l'impression de se faire spolier, on a tous l'impression que le voisin gagne plus. Et donc là-dessus, j'avais lu un excellent livre que je recommande aussi d'ailleurs à nos auditeurs, qui s'appelle La société de défiance, de Pierre Cahuc et Yann Algan, qui est un excellent bouquin qui démontre par A plus B comment le système social nous rend tous jaloux les uns des autres. Notre superbe machine à jalousie dont on se vante, ben voilà.
Donc c'est un aspect de transparence du système
Voilà.
social qui t'a plu
Ouais, qui m'a
avant
beaucoup
tout.
plu. Et puis aussi l'idée qui me plaît beaucoup dans le bas, c'est l'idée de lutter contre la. De résoudre le problème de la trappe à pauvreté. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, disons, au SMIC, bon, bah, il a 1 000, un peu plus de 1 000 euros. Et puis à côté, bon, effectivement, les gens qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvent. Sans travail, vont toucher un RSA et peut-être au-dessus des allocations chômage. Et effectivement, on comprend qu'il y a une forme de jalousie par rapport à. Ça crée de la jalousie, puisqu'on a des gens qui passent 35 heures à travailler au moins, qui gagnent presque pas plus que des gens qui ne travaillent pas officiellement.
Oui, et il y a
Donc,
deux façons de résoudre ça, c'est
y a la solution travail forcé
Oui.
Que voudrait mettre en place un peu la droite, en gros, et puis il y a la solution du revenu de base qui consiste à reconnaître que tout le monde participe à la société et que c'est pas qu'une question de valeur travail, etc.
Puis surtout, donc celui qui travaille gagnera en plus
Voilà,
du
c'est
revenu de
ça,
base.
exactement.
Parce qu'on peut dire aussi l'autre solution, c'est de dire bon, on arrête toutes les allocations et celui qui travaille pas, il ne touche rien.
Oui, puis on laisse les gens crever dans la rue. Ouais. Voilà. Donc, ça,
Donc c'est.
c'est. Voilà, moi j'avais ce dilemme-là depuis un petit bout de temps là-dessus. Est-ce qu'on laisse les gens crever dans la rue, machin? Ben non. J'avais une tension, enfin je pense, un gros dilemme en moi-même, et puis quand j'ai entendu parler du revenu de base, je me suis dit, voilà, là au moins un truc qui réconcilie un peu les gens, quoi, parce qu'aujourd'hui, ça va mal se finir, quoi.
Et alors sur ton blog aussi, on note, alors d'ailleurs même c'est pareil pour les vidéos de Gérard sur le mini-show, beaucoup de réactions et des gens qui se sont intéressés au sujet, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et tu fais un peu l'arbitre de ça, non? Tu es obligé de jouer un peu l'arbitre, d'arbitrer, y a un peu du plus et du moins à chaque fois.
J'essaye d'avoir un point de vue effectivement rassembleur, enfin pas un point de vue, mais une analyse en tout cas qui rassemble, c'est-à-dire que j'essaye de tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire de tomber dans le catalogage, ou même si je suis pas d'accord, j'essaye de comprendre le point de vue des autres. Parce qu'en fait, je viens de là aussi, de mon parcours, j'ai toujours dans ma famille des gens à gauche, à droite, j'ai toujours été forcé à fonctionner comme ça de toute façon. Donc j'essaie de comprendre le point de vue des autres, même si je suis pas d'accord, mais au moins c'est vrai que ça permet d'avoir des discussions assez saines, c'est vrai, sur Tête de Quenelle. J'ai été très souvent surpris de la qualité des débats, très enrichissant, et puis ce qui est intéressant derrière aussi d'avoir des discussions avec des gens qui ne comprennent pas et qui ne sont pas forcément favorables à l'idée. Et finalement, on se rend compte qu'au-delà des arguments purement économiques, c'est souvent une question de valeur derrière et de. On m'a jamais démontré par A plus B que économiquement ça tient pas, ou que ça va ma pas marcher, que ça va faire s'effondrer
Mais
l'économie.
surtout qu'il y a des
Et
expériences
au
qui montrent
contraire,
que
il y a
ça
des expériences
marche.
qui montrent l'inverse. J'ai d'ailleurs fait des articles là-dessus assez
Ouais.
fouillés aussi. Donc voilà, au niveau économique, purement, on est solide quoi là-dessus.
Alors, d'où ça sort ce nom là d'ailleurs, Tête de Quenelle? C'est parce que t'es lyonnais, non? C'est ça?
Oui, j'ai habité à Lyon. Petite référence, un petit clin d'œil, et puis aussi un conseil de quelqu'un qui m'est proche, mon cousin, qui m'avait conseillé au moment où je lançais mon blog de trouver un nom absurde plutôt que de s'enfermer dans un nom qui peut cataloguer pour toute la vie du blog. Je sais pas, j'aurais pu prendre Éconosphère, j'en sais rien, je dis ça. Et ça veut dire que j'aurais fallu que je parle d'économie pendant toute ma vie sur ce blog-là.
Ouais.
Alors qu'avec Tête de Quenelle, voilà, je peux.
Tu peux a priori
Et puis
pas.
c'est un nom que les gens retiennent et qui,
Oui,
du coup,
ça pour retenir, on
c'est un
retient.
bon petit coup marketing, un petit coup marketing assez intéressant.
Alors, par rapport à ça, et pour finir sur cet aspect, je dirais, analyse et solution, il y a évidemment dans le débat, et après on passera à notre troisième étape de l'émission. Dans le débat, comme ça, il y a parmi ces discussions qui ont lieu, alors soit dans les commentaires de blog, soit dans les commentaires de vidéo chez Gérard, soit éventuellement des discussions sur d'autres blogs. Mais il y a des blogueurs, par exemple, il y en a un qui célèbre chez les défenseurs du revenu de base, c'est le fameux Guidmoz. Il y a des blogueurs qui, décidément, sont totalement par contre obtus par rapport à toute discussion. Quand tu disais essayer de comprendre, disons, le point de vue autre, là, actuellement, ce n'est pas le cas là, sur ce type de blogueurs-là.
Je comprends un vieux réactionnisme qui est de dire par exemple que l'or c'est ce qui a été c'est ce qui empiriquement c'était toujours révélé comme la valeur sûre, la valeur refuge, machin. Donc je comprends un peu ce réactionnisme-là. Après, j'ai tendance quand même à penser qu'il y a un problème chez les gens qui s'acharnent avec les talons d'or, parce qu'on sait bien que si aujourd'hui on devait le mettre en place, il n'y a pas assez d'or, enfin, il y a plein de problèmes, ça résout rien, hein, cette histoire des talons d'or. Et puis surtout, après, c'est peut-être une vague intuition que je vais dire là, et je ne peux pas le prouver, mais j'ai quand même l'impression que ces gens-là sont tellement acharnés qu'on se demande pourquoi vraiment ils défendent ça. Est-ce que ce serait pas plutôt parce qu'ils seront assis sur un tas d'or et que du coup ils ont effectivement tout intérêt.
Ils en ont acheté, ils font du commerce en
Bah oui,
fait.
alors moi souvent les gens qui défendent ça, souvent on se rend compte que c'est souvent des gens qui. Ça fait longtemps qu'ils ont vu la crise venir.
Ouais.
C'est des gens pas bêtes, hein, ils sont plutôt intelligents. Mais je sens une grosse dose d'opportunisme derrière tout ça. C'est-à-dire ils ont vu la crise venir, ils ont acheté de l'or, ils ont eu raison d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, ils aimeraient bien effectivement qu'on revienne à l'étalon or, parce que forcément, ils ont l'or chez eux. Mais bon, le problème c'est qu'on, c'est un peu, je peux pas le prouver, mais on a l'impression qu'il y a un blocage dans cette discussion qui s'explique par d'autres raisons que la
Oui,
seule,
par des raisons plus cachées.
que le seul débat purement rationnel de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans un système monétaire international. Voilà.
Et toi, Gérard, qu'est-ce qu'on t'en pense de ça?
Je crois que le débat de fond, c'est le débat du respect de la vie et de la liberté de chacun, tout simplement.
Oui, mais celui qui a acheté de l'or, il
Oui.
n'est pas dans cette démarche-là.
Non, mais bon, à la limite, il pourrait être dans une démarche de trader, de commerçant, et voilà,
Donc il défend son
il défend
beefsteak.
son beefsteak, voilà, c'est tout. Oui, donc
Donc ça n'a
bon,
rien à voir avec
après
chercher une monnaie qui soit valable pour tous. Il défend son
tout.
propre beefsteak.
Oui, voilà, je crois que c'est des démarches qui sont certainement pas convergentes, en tout cas.
D'accord. Et donc si chacun défend son propre beefsteak, est-ce que ça peut marcher une monnaie?
Ah non, puisque la monnaie, c'est un outil d'échange au sein d'une communauté.
Alors est-ce qu'il n'y a
Donc,
pas
faut qu'il y
contradiction à ce
ait.
niveau-là entre la monnaie outil d'échange universel et la monnaie réserve de valeur? Est-ce qu'elle peut tenir les deux rôles en même temps?
Bah, bien sûr que non.
Alors pour quelle raison,
Non,
pourquoi?
non, non. Bah, la monnaie outil d'échange universel, c'est quelque chose qui circule, c'est un flux. Bon, si des individus commencent à thésauriser ce flux
parce qu'ils gagnent de la valeur.
Parce qu'ils gagnent, non, ou parce qu'ils ont peur du lendemain, tout simplement, parce qu'ils ont peur du futur et que donc ils ont envie d'avoir. Bon, supposons que l'eau soit, que la monnaie soit de l'eau, forcément, il y a des gens qui vont garder des bidons d'eau chez eux parce qu'ils vont peur, ils vont avoir peur que le flux s'arrête un jour ou l'autre. Le problème de ce comportement, c'est que la quantité d'eau globale qui circule dans la société diminue. Les gens font ça, plus ça diminue. Et là, on se retrouve face à des lois éthiques, finalement, qui... Le fondement de l'éthique, c'est si tout le monde faisait comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était petit, nos mamans nous disaient, mais arrête de faire ça, tu te rends compte, si tout le monde faisait pareil. Donc voilà, il suffit de se poser la question. Si tout le monde prenait des bidons d'eau, il n'y aurait plus d'eau. Donc si tout le monde prend la monnaie, il n'y aura plus de monnaie. Donc c'est un peu incompatible de dire la monnaie est une réserve de valeur avec le fait que la monnaie circule.
Donc tu es en train de nous dire, Gérard, finalement que l'eau a raison de s'évaporer pour après retomber en pluie.
Tout à fait, c'est ce qui justifie à 100% le principe du revenu de base, qui justement permet de compenser le fait qu'il y ait une partie de la population qui ait peur de l'avenir, qui thésaurise une partie de la monnaie, qui en prive les gens qui veulent que la monnaie, qui préfèrent que la monnaie circule, et donc le revenu de base compense cette privatisation d'une partie de l'outil commun.
D'accord, je crois que c'était bien dit. Stan, ouais. Je crois, il me semble, tu avais fait un article justement, tu as montré une irrigation de champs.
Oui, effectivement, c'était longtemps ça.
Tu t'en rappelles plus?
Si, si, c'était par rapport à la crise, effectivement. J'avais fait un article qui vraiment décrivait la crise de la dette actuelle en Europe. Et on voit très bien que, bon, par exemple, la Fed aux États-Unis ou le Japon, ils ont pas ce problème. Ils ont une crise économique dans leur pays. Alors, ça, y a pas de doute. D'ailleurs, le Japon n'en parle pas beaucoup, mais ça fait 20 ans que ça dure, hein, juste au passage, entre parenthèses. Mais eux, ils n'ont pas de crise de la dette, c'est pas la dette le problème. Puisque là-bas, ils ont la banque centrale rachète, augmente la masse monétaire, donc ils rachètent de la dette de l'État à l'appel, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, on voit bien que ça ne résout pas le problème du chômage, ça ne résout pas le problème du pouvoir d'achat, ça ne résout pas. Enfin. C'est juste que le processus de désintégration économique est beaucoup plus lent. Voilà, au Japon, ça
mais il n'y a pas de revenu de base au Japon?
Non, il n'y a pas de revenu de base. Il y a un débat là-bas aussi, il y a un mouvement pour le revenu de base, mais c'est pas encore...
Et alors, est-ce que le revenu de base n'est pas justement aussi un moyen tu parlais de flux, finalement de transmettre aux vivants, mais finalement une partie au moins de l'héritage des morts, de ceux qui partent, quoi. Il y a des morts qui partent de la société, et il faut bien qu'à un moment donné, cette... Il y a une évaporation de l'eau pour que ça retombe en pluie, donc il faut bien que les nouvelles plantes soient irriguées quelque part par la possibilité d'accéder aux ressources. Est-ce que c'est pas aussi ce principe-là? Est-ce qu'au Japon, finalement, ils vont pas arriver peut-être plus tôt que les autres à le faire, puisqu'ils essaient de tenir, justement, ils ont un système de monnaie auto-réalimentée, donc qui s'auto-dévalue finalement depuis 20 ans.
Je suis pas non plus un grand expert du Japon. Moi, ce que je vois quand même, c'est... C'était très hiérarchique au Japon et qui a quand même tendance à ça a quand même tendance à oppresser les jeunes générations.
Donc ça
sort... Et par exemple, c'est au Japon qu'est né le phénomène des NEET. C'est ni stage, ni boulot, ni formation. Donc c'est en anglais hein, l'acronyme NEET, N-E-E-T. Donc c'est au Japon que ça s'est né. Et c'est toute une catégorie des jeunes qui se mettent à l'écart de la société parce que justement, cette société-là les opprime. Et donc moi je vois plutôt ce côté là mais après encore une fois je pense que ça, des auditeurs connaissent sûrement mieux le Japon que moi enfin voilà ce que je peux dire du Japon. Après je sais pas si vraiment je sais pas s'il y a vraiment un phénomène d'évaporation vu que justement il n'y a pas de revenu de base à mon avis donc
Oui, bien sûr, c'est vrai que ça, pour l'instant, ça monte, mais pas forcément pour tout le monde.
Non, non, ça, oui, ça va pour les banques, etc.
Alors, ça nous fait une bonne transition, puisqu'on a commencé à parler de ce problème générationnel, parce que la crise, on le voit aussi, c'est une crise, finalement, de la jeunesse indignée en Europe, et puis qui occupe le sol, ou qui occupe Wall Street aux États-Unis. C'est quand même des gros mouvements de jeunesse. Alors, il y en a déjà eu dans le passé, il y en a eu en 68. On peut citer aussi les années 30, il y avait des grands mouvements de jeunesse. Hein. Il y a eu quand même une récupération de la jeunesse à cette époque-là, pas forcément pour des buts avouables d'ailleurs. Donc il y a quand même un processus qui semble se répéter de crise générationnelle et qui peut-être justement est lié à cette absence de revenus de base. Donc comment, étant de la situation, qui est quand même extrêmement grave, et qui peut déboucher sur des choses beaucoup plus graves encore aussi, hein, on n'est qu'en 2012 et qu'on peut considérer qu'on est à peine encore on est encore en plein dans le trou de la crise et on n'est pas sûr d'en sortir encore dans de bonnes conditions. Quelle est votre maintenant, quelles sont vos actions, je dirais, plus concrètes vers l'extérieur pour au-delà d'Internet, essayer de voir comment on peut améliorer les choses et éviter peut-être qu'à l'avenir aussi, ce phénomène de blocage générationnel se renouvelle, parce que même si ça a lieu que tous les 40 ans, est-ce que résoudre la crise uniquement pour aujourd'hui ne va pas créer les conditions pour la recréer plus tard? Donc comment vous vous engagez pour faire connaître cette idée de revenu de base et la diffuser? Alors je crois que Gérard, on va peut-être suivre avec toi. Tu es allé voir les indignés français sans forcément faire partie du mouvement, mais pour un peu essayer de les informer sur le problème monétaire et sur la possibilité de revenus de base.
Oui, bien sûr, ouais. J'ai passé pas mal de temps à la fois à l'automne 2011 et au printemps un peu 2012 avec les indignés. J'ai participé à des assemblées générales, j'ai observé. Et je me suis rendu compte que le mouvement des indignés, c'est quelque chose de très hétéroclite, hein, il faut bien le dire. Et il n'y a pas que des jeunes. Hein, je crois que le mouvement des indignés, ou Occupy Wall Street aux États-Unis, ou tous les mouvements Occupy qui existent dans le monde entier, c'est surtout des gens qui descendent individuellement dans la rue ou qui se regroupent parce qu'ils se sentent lésés, parce qu'ils se sentent frustrés. Et la frustration, c'est pas forcément une question d'âge. Bon, bien sûr, si on fait partie d'une génération qui vient d'arriver dans une société, dans un système social, où on s'aperçoit que les gens qui sont là depuis 50 ou 60 ou 70 ans disposent d'avantages que peut-être on n'aura soi-même jamais, forcément on a envie de se révolter, on a envie de leur dire comment ça se fait que vous travaillez à rien faire alors que moi je suis obligé de travailler pour avoir des cacahuètes. Donc c'est vrai qu'il y a une grande frustration qui se met au jour. Et donc c'est pour ça que j'ai passé du temps avec les indignés pour essayer de... J'aurais voulu définir ensemble, définir avec eux la source de tous ces problèmes, la cause des causes, comme dit souvent notre ami Étienne Chouard, qui parle lui plus de démocratie que de monnaie maintenant. Et donc pour moi, une des causes principales, c'est donc l'usurpation de la création monétaire par un petit nombre de gens et le fait qu'elle échappe à la société dans son ensemble. Mais je me suis aperçu avec les discussions avec les indignés qu'on était loin, très loin de cette prise de conscience-là. Qu'il y a beaucoup de gens parmi les indignés qui disent non, 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 il faut supprimer la monnaie, c'est la monnaie qui est le mal. Qui disent non, 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 c'est le capitalisme qu'il faut supprimer, c'est le capitalisme qui nous tue, etc., etc., etc. Donc il y a tellement de points de vue divergents qui se révolte contre des conséquences, contre des effets, que c'est très difficile de discuter avec des gens qui sont persuadés que le symptôme est la maladie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer nos actions, qu'il faut continuer à faire des émissions sur Monnaie Libre, parce qu'il faut effectivement diffuser les vraies racines, bon, les problèmes démocratiques, les problèmes monétaires, et que c'est à mon avis seulement en prenant conscience des problèmes qu'on aura peut-être un jour envie d'étudier des solutions.
En ayant conscience des causes, donc tu disais.
Bien sûr,
Et non pas
oui,
des
des causes qui se
symptômes.
trouvent dans l'étude des
Voilà.
problèmes.
Voilà.
Oui.
Et alors, mais est-ce que ça a marché? Parce que c'est ça est-ce que tu as réussi à les éveiller sur ces sujets-là?
Non.
Non,
Non,
tu n'as
non,
pas
non, non,
réussi.
clairement non, parce que bon, je me suis aperçu aussi en étudiant les mouvements des indignés, que il y a une volonté très profonde de cette micro-société en gestation, d'exercer une démocratie réelle. C'est-à-dire une démocratie où chacun a le droit à la parole, où chacun a le droit au refus, où chacun a le droit à l'information reçue et à l'information donnée,
Oui.
et que ce processus-là, c'est un processus extrêmement lent, extrêmement compliqué, pour lequel nous ne sommes absolument pas formés. Et donc voilà, si un jour une démocratie réelle se met en place dans un pays, quel qu'il soit, ce sera parce qu'il y aura eu un effort d'éducation, un effort d'éducation personnelle, volontaire, un effort d'éducation partagée, un effort de conscience, d'éveil commun. Et tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et forcément, ça m'embête de le dire, mais je pense que c'est pas un processus qui peut se faire en quelques années. Je pense que c'est un processus multigénérationnel qui passe par l'éducation de nos propres enfants, et peut-être par une ouverture de l'éducation à des principes économiques qui, pour l'instant, ne sont même pas connus.
Est-ce que tu ne retrouves pas cette idée de démocratie souple, hein, comme tu viens de la décrire, directe ou réelle? Est-ce que tu ne retrouves pas cette idée dans les partis pirates, notamment le parti pirate allemand, qui a mis en place un outil de liquide démocratie, comme ils appellent ça, qui justement permet à chaque membre du mouvement de pouvoir participer à l'élaboration de tous les points du programme?
C'est possible. C'est possible. Je suis avec attention, évidemment, les développements des différents partis pirates en Europe et en France en particulier. Je constate que le manque, encore une fois, d'éducation que nous avons à la liberté, à l'autonomie, à la prise de décision personnelle et collective est tel que même un parti pirate, même une démocratie réelle, a vite fait de retomber dans les travers d'une démocratie représentative ou d'une dictature. Selon les individus, il y a toujours le danger qu'une hiérarchie se mette en place et que donc les décisions soient prises par un petit collègue. De gens qui ont compris certaines choses et qui entre guillemets font participer le reste de la pyramide à leurs décisions, mais en réalité les imposent. Donc il y a toujours ce danger-là. Donc c'est très difficile quand on monte une structure politique comme un parti de garder tout ça à l'esprit c'est un combat personnel et collectif permanent de préserver la liberté de chacun et d'avancer vers des décisions collectives.
Donc le relâchement est toujours sanctionné.
Et oui, et puis peut-être même que le concept même de décision collective impose le silence d'une partie de la collectivité.
Ce qui est pas bon.
Eh oui, on ne sait pas.
Alors Stan, toi, comment tu agis? T'es pas allé à New York voir Occupy Wall Street?
Non, j'ai été quelques fois voir les indignés à Paris, mais sans plus. Devant aussi, comme l'a décrit Gérard, la difficulté à attirer vraiment l'attention et vraiment d'aller plus loin que la simple discussion, voilà, l'allusion à ces idées-là. Donc moi je suis plutôt dans l'écriture et dans le journalisme, mais là aussi c'est pas facile, pas facile parce que bon moi j'ai bien vu, j'ai fait une école de commerce, le système monétaire actuel on nous l'apprend comme ça, comme si c'était absolument normal, comme si ça avait fonctionné comme ça depuis la nuit des temps, et puis finalement on nous apprend pas du tout, on nous instille même pas dans la tête l'idée qu'on puisse faire des monnaies différentes, ne serait-ce que des monnaies complémentaires, etc. On nous en parle pas en école de commerce, et je pense que sur les bancs de l'ENA et de Sciences Po, c'est à peu près la même chose, bien sûr.
Donc Bitcoin ou
Oui,
OpenUDC
non,
ou
mais n'importe, mais
Ripple
même l'idée de
ou les
dire que la monnaie, ça peut être autre chose que la dette ou quelque chose comme ça, enfin, on n'est pas du tout là-dedans. On nous apprend la banque centrale, machin, et puis surtout, on vous contrôle après,
que vous avez
voilà,
bien
après
appris.
on fait un examen pour savoir si. Donc, il ne faut surtout pas dévier de la ligne, sinon on va être sanctionné. Mais bon. Donc là, dans le milieu des journalistes, c'est un peu pareil aussi. Il y a des sujets comme ça qui sont assez, du coup, assez difficiles à amener. Donc, moi, j'essaye aujourd'hui de m'orienter vers du journalisme citoyen. Donc, ça va être un de mes objectifs à venir. Donc, ça va passer notamment par le revenu de base.info, où on va pouvoir avoir une plateforme pour les défenseurs du revenu de base en France, où on pourra, les uns et les autres pourront contribuer et apporter leurs articles.
Alors, tu fais plus que ça, parce que tu es aussi allé à Bruxelles.
Voilà, bah ça c'est.
Oui, mais faut que tu en parles, parce que
Ouais,
là, nous, on ne sait pas, là, on n'est pas au courant.
j'y arrive. À Bruxelles, effectivement, j'étais une réunion en mai, avril, dont l'objectif c'était de faire avancer le sujet de l'initiative citoyenne européenne. Donc, c'est quoi? C'est une procédure que la Commission européenne a enfin mis en place dans les textes, donc qui devient officiellement en place, qui va permettre à des citoyens, au nombre de 7, de proposer un texte à la Commission européenne. Et s'ils obtiennent un
Nombre
million
de
de
7?
signatures,
Ah non, il faut 1 million de signatures.
1 million de signatures pour le texte, et il faut que par contre, il faut que la Commission l'accepte avant, il faut que ce soit dans ses, comment dire, dans ses attributions. Il faut que ça rentre dans les attributions de la Commission. Donc là, du coup, par rapport au revenu de base, on fait référence à la Constitution européenne, qui fait référence elle-même aux droits de l'homme, etc. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de lancer la pétition en septembre, et d'avoir une, on va du coup lancer une campagne européenne pour obtenir le million de signatures.
Alors, on n'a pas compris encore là. Donc, il y a une initiative européenne pour une pétition d'1 million de signatures qui
Voilà.
sera soumise à la Commission, au Parlement,
À la Commission
à la
européenne.
Commission européenne,
Et
en vertu et qui proposera l'instauration d'un revenu de base, c'est ça, européen?
qui demandera à la Commission européenne de veiller à l'instauration d'un revenu de base.
C'est un peu flou ça, comme ordre
C'est un peu flou,
citoyen.
mais il y a des contraintes. Comment dire? Le problème, c'est que, par exemple, les actions sociales, c'est du domaine des États. La Commission européenne n'a pas le droit de fixer le SMIC de la France, par exemple. Donc tout ça dépend des États encore. Donc on peut absolument. Il y a eu un débat entre nous, justement, c'était l'objet de la réunion de Bruxelles, que de débat de deux. Il y avait deux versions du texte. Soit on demandait à la Commission simplement de veiller gentiment, mais veiller gentiment, ça veut aussi dire, par exemple, débloquer des budgets pour des chercheurs, faire des expérimentations. Ça peut quand même aller. C'est du lobbyisme après, hein. Mais donc, donc il y avait donc soit cette option qui était retenue et qui devrait être validée encore une prochaine réunion à Paris, justement, le 7 et 8 juillet.
D'accord.
Donc cette version du texte était en compétition avec une autre proposée par les Italiens qui disait non, nous on veut une directive européenne qui va obliger les États à transposer dans leurs lois nationales. Mais il y avait une grosse incertitude, c'est-à-dire que le risque c'était que la Commission lui dise niette d'entrée de jeu. Et donc même pas de signature, rien, on est obligé de recommencer.
Ah oui.
Donc finalement on a choisi une version entre guillemets soft, mais qui va quand même permettre de faire une campagne, d'aller chercher les signatures, de faire du bruit. Et puis si on a le million, après on a quand même la Commission dans la poche.
Donc c'est aussi un moyen de faire connaître l'idée au
Exactement.
niveau
Ouais.
européen.
Et puis bah on l'a vu en France, nous du coup, parce que c'est les Allemands et les Autrichiens qui ont été moteurs, on va dire, sur le sujet, du coup ils nous ont contactés en France en disant bah vous êtes dedans, vous êtes dans le coup les Français ou quoi? Et donc c'est aussi pour ça que moi avec d'autres, notamment Marc, Marie de Basca, etc. C'est là, nous on s'est dit bon bah effectivement il va falloir qu'on se bouge voilà le.
Marc de Basquiat, qui est un ingénieur français qui a fait une thèse,
Voilà.
qui est docteur en économie maintenant grâce à cette thèse, et qui a fait une thèse donc sur le revenu de base et comment le financer
Voilà.
dans le cadre du budget français. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment l'ouvrage le plus à jour, le plus
Le plus académique,
complet.
on va dire, aussi.
Ouais,
Le
ouais.
plus universitaire hein, qui
Sur
soit.
le financement, c'est-à-dire par la fiscalité, quoi. On n'est pas
Voilà.
du tout dans l'approche monétaire.
Alors, enfin, le plus universitaire, bien sûr, il y a tous les travaux de Yolande Bresson qu'il faut saluer ici parce que c'est notre ancêtre à tous. Mais c'est vrai, si on supporte le revenu de base en France, on ne peut pas ne pas faire référence à tout le travail accompli par Yolande Bresson et ses excellents livres, notamment Une clémente économie, ou au-delà même, il a réfléchi déjà au-delà du revenu d'existence aussi, un de ses derniers ouvrages, parce qu'il traite du sujet depuis plus de 30 ans maintenant qu'il a mis au point son approche théorique. Alors, on approche de la conclusion, mais on va continuer avec Gérard quand même, puisque je crois que tu as oublié de me citer une de ces initiatives aussi, puisque tu es allé en Angleterre hein, rencontrer un mouvement aussi anglais qui a pris conscience et qui est très actif sur le sujet de la monnaie, qui se nomme Positive Money.
Ouais. J'ai été rencontrer les gens de Positive Money à Londres, effectivement, et et leur démarche, je m'accorde complètement avec leur démarche, c'est-à-dire que ils se concentrent, eux, sur la définition et l'exposition de l'injustice actuelle du système existant. Et donc, bon, au niveau politique, au niveau éducatif, je pense que avant de proposer des solutions ou des alternatives à quelque chose qu'on définit comme un problème, il faut effectivement définir cette chose comme un problème. Donc voilà, c'est la démarche de Positive Money à laquelle je souscris complètement. Donc qui s'attache à expliquer la création monétaire par le crédit, le fait que les banques, quand elles accordent un prêt, créent de la monnaie bancaire qui circule ensuite dans la société sous forme de dette, évidemment. Donc la société est soumise en permanence au remboursement d'une dette sur sa propre monnaie. Ce qui est un système complètement aberrant, étant donné que si on rembourse la dette, il n'y a plus de monnaie, donc il n'y a plus d'économie. Sans parler des intérêts. Donc voilà, donc on expose l'absurdité de ce système-là. Donc Positive Money le fait. Je suis en contact avec eux pour créer peut-être dans les mois qui viennent l'équivalent de ce mouvement-là en France. Et après, l'exposition des alternatives dont on parlait au tout début de l'émission, à mon avis, je crois que la meilleure manière de le faire, c'est sous forme de catalogue de solutions à présenter au public, à présenter au débat démocratique, en espérant que ce public et cette société va se rendre compte que dans le catalogue d'alternatives qu'on peut proposer, il y en a des bonnes, des meilleures et des excellentes. Et en espérant que la réflexion commune va aboutir à la solution à la mise en place d'un revenu de base, qui est, si on y réfléchit, là, effectivement, la solution la plus équitable, la plus juste pour l'ensemble de la société. Donc voilà, c'est la démarche de Positive Money, qui travaille beaucoup sous forme de conférences, sous forme de livres, au niveau de l'éducation de la société, et qui travaille aussi beaucoup par des rencontres avec les politiciens à Londres. Ils ont rencontré un assez grand nombre de députés du Parlement à qui ils exposent de la monnaie. Durant cette démarche, ils s'aperçoivent que la plupart des députés qu'ils rencontrent ouvrent des yeux ahuris quand on leur explique ce système que pourtant, sans le savoir, ils cautionnent pour la plupart et qu'ils utilisent, j'espère, sans le savoir. Et donc voilà, ils sont conscients qu'il y a cet énorme effort d'information à faire. Donc ils ont même fait rédiger une proposition de loi pour mettre en place des systèmes alternatifs. Parce que bon, bien évidemment, si on supprime la création par le monétaire, par le crédit, il faut quand même que les gens puissent emprunter. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pouvoir emprunter que de l'argent qui existe préalablement, c'est-à-dire qui provient de l'épargne de quelqu'un, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, ça suppose tout un tas de changements que Positive Money a matérialisé sous forme d'une proposition de loi. Et donc pour ma part, je traduis certains de ces documents, je les utilise pour mon propre ouvrage que je suis en train d'écrire sur la définition de tout ça. Je vais les utiliser pour les conférences que je ferai dans le futur. Et puis voilà, j'espère que tous ces documents-là font partie de l'ensemble de toutes les recherches qu'on a à notre disposition pour faire passer le message qui nous tient à cœur.
D'accord, donc tu es en train de nous dire que Positive Money, finalement, en déposant une monnaie de loi qui.
Une proposition de
Une proposi une monnaie de loi, j'ai dit. Une proposition de loi pour tenter de modifier finalement le code monétaire, est en train d'essayer d'appliquer les recettes du logiciel libre. C'est-à-dire qu'il veut changer le code. Mais est-ce que ce code est modifiable démocratiquement?
C'est une bonne question. Il est modifiable démocratiquement à condition qu'il y ait une volonté populaire. Si
Mais
on
j'ai.
cherche 1 million de signatures pour présenter une pétition à la Commission européenne, 1 million, c'est pas rien. Donc,
Oui, mais si les règles sont écrites à Bâle, il me semble qu'à Bâle, il n'y a pas du tout de processus démocratique qui gouverne aux règles monétaires. Donc, est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau que de déposer un projet de loi?
effectivement, je suis tout à fait d'accord. Essayer de modifier un système existant en s'adressant aux créateurs du système existant, c'est un
C'est
petit
comme demander à
peu.
Windows de devenir libre, en fait.
Oui, voilà, oui.
Est-ce que vous ne pensez pas, une fois qu'on a identifié aussi le projet de, enfin, la possibilité de revenu de base et donc d'avoir une monnaie qui soit basée sur un revenu de base, évidemment qu'il y a la possibilité, pourquoi pas, de demander à Windows de transformer Windows en logiciel libre. Il y a aussi la possibilité de développer GNU Linux, qui est un système tout à fait nouveau. Donc est-ce que ça pourrait ne, est-ce que ça ne pourrait pas passer par le développement de monnaies alternatives, voire même de plusieurs monnaies alternatives, basées sur ce principe-là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, absolument. De toute façon, le revenu de base, ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre le pouvoir qui est aujourd'hui une minorité de gens et à le répartir entre tous les citoyens. Forcément, le problème, c'est que ceux qui ont le pouvoir actuellement, ils sont pas trop d'accord avec ça. Donc, bien sûr, il faudra un minimum des gens dans la rue, et beaucoup, et pas trop de matraques en face. Ou deuxième possibilité, effectivement, montrer, prouver, pour accélérer le processus, le prouver par des exemples. Donc ça existe déjà, des
Il y en a déjà
expérimentations,
beaucoup.
mais en mettre d'autres en place. Et donc, effectivement, par des monnaies peut-être comme Bitcoin, une monnaie par Internet, et peut-être aussi par des jeux vidéo, par exemple. Ce qu'on voit récemment, j'ai vu ce matin que, par exemple, un économiste grec qui travaille beaucoup sur les questions monétaires avec la Grèce, etc., et il s'est fait embaucher par Valve, le fabricant de l'éditeur de jeux, et surtout des jeux communautaires d'ailleurs. Et donc là, il y a des vraies problématiques économiques dans les
Mais on le
jeux.
voit avec World of Warcraft aussi, j'en ai
Dans
parlé,
World of
je crois,
Warcraft, etc.
il y a longtemps, puisque le World of Warcraft a sa monnaie interne et on voit bien qu'il y a un mécanisme monétaire qui joue avec de la vraie valeur qui se génère dans le jeu, et
Voilà.
puisque cette monnaie s'échange à l'extérieur contre de la monnaie, je dirais, officielle. Donc ce
Et
simple
donc voilà,
fait.
donc ça m'a fait penser que peut-être que dans les jeux vidéo, il faudrait mettre en place des monnaies avec des runes base pour regarder au moins ce que ça fait par rapport à d'autres.
Il faudrait des jeux libres alors, parce que sinon, alors le
Voilà.
problème, parce que si alors, on a vu, il y a aussi le crédit Facebook qui a été annoncé à un moment donné, hein. Vous avez vu cette histoire du crédit Facebook, mais évidemment, le crédit Facebook n'est donné qu'en échange d'une monnaie préexistante, donc n'est pas installé sur un menu de base, et d'ailleurs, ça marche moyennement, je veux dire, les gens ne s'en procurent pas beaucoup. Donc, ça ne permet pas à cette monnaie d'exister. Mais si une monnaie, même si une monnaie se crée sur la base d'un menu de base, que les gens utilisent, si le jour où la personne qui contrôle cette monnaie décide d'arrêter de couper le robinet, ceux qui se retrouvent avec cette monnaie faussée, est-ce qu'ils vont pas se retrouver lésés?
C'est là où on voit bien le lien entre la démocratie et la monnaie, hein. C'est entre une gouvernance ouverte et qui se
Donc,
renouvelle, etc. Et
il suffit pas
il suffit pas d'avoir une monnaie bien designée, il faut aussi une gouvernance par-dessus, enfin, liée, une
en tout cas,
démocratie, quoi,
une règle de
vraie.
modification.
Oui, il faut
Associé,
pouvoir.
parce que si aussi la monnaie passe en revenu de base, et que ce revenu de base n'est pas réactualisé, mais que du coup le fait de la volonté de revouloir remodifier cette monnaie pour que le revenu de base soit actualisé n'est pas possible, finalement, est-ce que ça n'aura pas été non plus là non plus un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'il ne faut pas arriver à la compréhension qu'il faut avoir la maîtrise du code?
Si, bien sûr, oui, c'est la base. C'est la racine
Est-ce qu'il
de
faut pas
l'éveil.
que est-ce qu'il faut pas que ce code soit libre? D'où le nom monnaie libre. Voilà pourquoi je voulais
Voilà la
arriver à cette
conclusion.
conclusion.
Belle conclusion.
Donc ça fait presque, bah ça va faire presque 1 heure qu'on est ensemble. Donc je crois qu'on a bien fait le tour. On a bien vu à la fois eh bien, votre activité sur Internet, comment vous êtes arrivé à la conclusion du revenu de base et à cette prise de conscience, et puis vos actions. Alors y compris international, on le voit hein, tous les deux, vous êtes allés y compris défendre cette idée, y compris un peu en dehors des frontières françaises. Donc, j'ai presque envie de dire le combat continue. Alors,
Ah ouais, la lutte continue, ouais.
il faut absolument que les citoyens prennent conscience de ce problème, sinon on risque d'aller dans un mur.
Oui, puis il faut aussi surtout que les citoyens qui comprennent déjà aussi travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, je pense, sont conscients déjà qu'il y a un gros problème. Et deux, il y en a un certain nombre qui sont conscients qu'il y a un truc avec la monnaie, que le revenu de base c'est assez intéressant. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que ces gens-là travaillent ensemble, qui se rencontrent, qu'ils essayent d'aller plus loin ensemble et
Donc
dans la.
ça veut dire que les gens qui défendraient une idée de revenu de base, comme par exemple qui mettraient en place un site comme revenu-de-base.info, ils ont intérêt à mettre en place une organisation de type démocratie ouverte, hein.
Bah voilà, et puis avoir
Sinon
une.
ça perdra de sa crédibilité, c'est ça?
Avoir un bien commun qui serait par exemple le site que nous on essaye de monter, ce sera un bien commun et le but c'est de faire vivre ce bien commun et que après les gens puissent utiliser les ressources, là donc le site, mais aussi peut-être plus tard peut-être aussi des fonds qu'on va lever, on va essayer d'avoir. D'avoir des cotisations, etc. Peut-être, c'est en cours de discussion, mais en tout cas, l'idée, c'est que de se mettre aussi en commun pour organiser des événements locaux, des projections du film qu'on a cité tout à l'heure. Enfin, voilà, créer une vie autour de l'idée et des actions concrètes, quoi.
D'accord. Bon, ben, je vous dis merci à tous les deux. Évidemment, on se retrouvera sans doute pour une prochaine émission de Monnaie Libre, puisque la diffusion n'est pas finie. On ne sait pas encore combien de numéros on va faire, mais on en fera d'autres. Donc, merci de nous avoir suivis. Puis je vous donne rendez-vous, moi, pour une prochaine émission de Monnaie Libre. En attendant, je vous laisse avec le générique fétiche de l'émission de Nighter 313, No More Dreams. Thank you.